Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la Rome virtuelle de Sophie Madeleine. Tel est le titre que j'ai donné cette semaine à notre émission Antiquissimo sur Radio Alliance Plus. Je salue tout de suite notre invitée, donc Sophie Madeleine. Bonjour.
Bonjour.
Alors Sophie, il me semble vous connaître alors que je ne vous connais pas, mais je vous ai tellement, entre guillemets, fréquentée sur le web, car cela fait des années, on va en parler bientôt, que je suis ce que vous faites pour la reconstitution de l'Antiquité, cette fameuse Rome virtuelle dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Et donc, ça fait des années, vous allez dire exactement comment et quand ça a commencé. Et donc, ça fait des années que j'assiste à des conférences passionnantes, génial, que l'on a la chance, nous spectateurs, loin de Caen, car tout cela au départ se passe dans l'université de Caen, donc bien loin de chez nous, mais grâce à la magie du web, on peut suivre ces conférences géniales et on les voit toujours constituées en deux parties. Une partie théorique, je vais dire, pour faire vite, et une partie où la reconstitution, c'est ça qui va nous passionner aujourd'hui, prend toute son ampleur, sa magie et on passe des heures à regarder ça. Donc, j'avais très envie de faire votre connaissance. Ça sera fait vraiment au mois de juin, le 21 juin, le dimanche 21 juin, car vous nous faites l'honneur de venir, ainsi que Philippe Fleury, dont on parlera aussi, au Forum du Livre Péplum, au Musée de la Romanité, dans l'auditorium. Donc ça, vraiment, j'ai hâte. Et avant que je ne parle avec vous précisément, je vais pour nos auditeurs dérouler très rapidement le programme de ces conférences, de cette journée dont les Nîmois, mais il faut parler à plus loin, savent qu'elle est gratuite, ouverte à tous, comme on dit traditionnellement, dans la limite des places disponibles. Donc ça ouvre à 10h. À 10h, on présente les invités. Il y a 10h20, un montage vidéo, comme chaque année, celui-ci aujourd'hui, cette année, s'appellera Tempus Vivendi. J'ai oublié de rappeler que le thème du forum, c'est l'otium du peuple. Après ce montage, est remis un prix de la BD antiquisante, le prix Annie Pesson, en présence des édiles de la ville de Nîmes. Et ce sera l'occasion donc de féliciter la lauréate qui a écrit et dessiné une bande dessinée où elle replace Cléopâtre dans la perspective historique et la plus réaliste possible. Et cette lauréate, c'est Isabelle Détemps. Donc, c'est l'occasion de faire un petit peu la fête avec elle et ensuite de procéder à des signatures. L'après-midi, j'égrène rapidement les autres conférences qui vont débuter à 14h. Jean-Paul Thuillier, jeu du cirque, course de chars et sport business. À 14h35, donc voilà notre Sophie Madeleine et Philippe Fleury qui vont nous proposer restitution virtuelle de la Rome antique, le cas particulier du stade de Domitien. Une petite pause de quelques quarts d'heure pour voir les invités face à face avec le public pour une séance de signature. Puis ensuite, deux dernières conférences. À 16h10, celle de Jean-Noël Robert qui a choisi d'intituler sa conférence « Les termes, le palais du pauvre ». C'est un auteur prolixe aux belles lettres. Autre auteur prolixe aux belles lettres et ailleurs, à 16h45, Claude Aziza pour « Une mystérieuse affaire de gladiateur à Carthage ». C'est ainsi qu'avec une nouvelle séance de signature à 17h20, eh bien c'est ainsi qu'à 18h, les portes se refermeront. Donc à ce propos, nous aurons eu l'occasion assez longuement de voir un travail que vous avez réalisé sur le stade de Domitien. Mais avant d'en parler, j'aimerais Sophie que vous nous disiez un petit peu comment ça a commencé pour vous? Alors, je ne dis pas même la reconstitution virtuelle, mais est-ce que, puisque vous avez fait des études de littérature ancienne, vous êtes historienne, mais vous êtes aussi ingénieur, on va en reparler parce que ce parcours scientifique, il est vraiment passionnant. Est-ce que quand vous étiez petite, vous étiez déjà intéressée par l'Antiquité?
Alors déjà, permettez-moi de vous dire tout le plaisir que j'ai d'être à votre antenne parce que moi aussi, je suis ce forum que vous organisez à Nîmes et j'ai toujours un grand plaisir à retourner à Nîmes. Et vraiment, je suis ravie de pouvoir vous rencontrer au mois de juin et de participer à cette belle journée. Alors pour répondre précisément à votre question, quand on travaille sur l'Antiquité, et c'est un travail qui demande vraiment un réel investissement pour comprendre les sources textuelles, les sources latines, les sources grecques, les sources archéologiques, il faut être passionné. Et cette passion, mais je crois que oui, en effet, elle remonte souvent à une époque fort lointaine. Et je me rappelle quand j'étais enfant que ma maman me reprochait d'avoir détruit plusieurs machines à laver parce que j'avais toujours des cailloux dans mes poches. Et oui, je crois que c'est une passion qui remonte à très longtemps, probablement d'une professeure de latin au collège. Qui est arrivée un matin en disant Delenda est Carthago, et je ne comprenais pas du tout ce qu'elle disait parce que je n'avais pas encore suffisamment de base en latin. Et puis quelques minutes après, elle nous a distribué des petits gâteaux à la figue et elle nous a raconté l'histoire de Caton qui alertait les Romains contre la menace carthaginoise. Et voilà, une passion était née en quelques secondes autour d'un paquet de gâteaux.
Ah, comme quoi les plaisirs culinaires sont toujours au rendez-vous de l'histoire. Et c'est passé dans quelle région ça alors?
Ben moi, je suis originaire de Normandie. J'ai fait mes études à l'université de Caen-Normandie, où je suis aujourd'hui en poste comme ingénieure de recherche habilitée à diriger des recherches. Et je suis également directrice du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de cette même université. Donc, si je me rends très régulièrement à Rome, j'ai la chance de pouvoir mener ma carrière dans ma région d'origine.
Donc, dès le collège, cette passion naissante, et puis ça ne s'est pas démenti. Et j'imagine, vu l'aboutissement de tout cela, que vous étiez à la fois passionné par la littérature, les arts, l'archéologie, l'histoire, mais aussi par les sciences.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est une illusion moderne que de vouloir
Absolument.
cloisonner les disciplines. Quand on s'intéresse à l'Antiquité, il faut garder un esprit ouvert. Et je pense à l'architecte Vitruve qui décrit la formation de l'architecte et qui dit qu'il faut s'intéresser au dessin, qu'il faut s'intéresser aux mathématiques, que la science est vraiment un tout. Et si vous me permettez un petit excursus, je suis passionnée de bande dessinée, comme
Ah.
quoi il n'y a jamais de hasard dans la vie. L'autrice que vous allez récompenser au mois de juin, eh bien, j'ai toutes ces bandes dessinées juste derrière moi, là, 1,50 m dans mon dos, dans ma bibliothèque. Et oui, en effet, il faut être curieux de tout, curieux des textes, et puis peut-être avoir envie de connaître ces sites dont on parle, aller sur place, s'en inspirer, essayer de vraiment comprendre que nous sommes les héritiers de ces civilisations anciennes.
Et d'être capable, comme vous le faites, de déchiffrer ce passé et de le contextualiser, parce qu'on oublie toujours cette dimension-là. Alors, vous parliez de bande dessinée, oui, ça c'est la fiction, les histoires, l'histoire, les sciences, tout ça, en effet, vous avez raison de dire, enfin, je pense comme vous qu'il faut absolument pas cloisonner. Et je me bats toujours, même contre des professeurs, hein, qui disent
Bien sûr.
celui-ci est littéraire, celle-ci. Ça me met hors de moi parce que je pense qu'on devrait faire de tout, quoi.
Exactement. Je pense que c'est une approche un petit peu ridicule. J'espère que je ne vais pas me faire trop d'ennemis dans l'auditoire, mais pour vous raconter une autre petite histoire, tout de suite, je travaille à la publication d'une monographie pour l'École française de Rome qui est consacrée au vélum dans l'Antiquité. Ce sont les voiles que l'on dépliait sur les édifices de spectacle, donc on n'est pas si loin que ça du stade de Domitien, pour faire de l'ombre sur les spectateurs, pour qu'ils puissent assister au spectacle toute la journée, pas seulement 2 heures en soirée comme on le fait aujourd'hui, mais qu'ils puissent vraiment pendant une journée entière et parfois en été, assister au spectacle. Et pour comprendre ces systèmes de vélum, eh bien je me suis entourée de physiciens qui m'ont aidée à comprendre le poids des systèmes, la manœuvre des cordes, combien il fallait de personnel pour manipuler tous ces systèmes-là. Et c'est là que la science est une, et c'est Tout le monde ne peut pas savoir, mais c'est l'intérêt d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui vont travailler autour d'une même passion, autour d'un même sujet, mais avec des personnes formées avec des spécialités différentes.
Oui, et c'est absolument indispensable. Et vous-même, vous avez publié beaucoup, vous parliez de Vitruve tout à l'heure, mais beaucoup effectivement sur des aspects techniques très importants, parce que les Romains, pas seulement eux, mais c'est eux qui m'intéressent, avaient, on peut penser aussi à l'empereur Néron, dont parfois la folie est impressionnante et terrorisante, mais dont on conçoit bien aussi qu'il avait ce génie de la technique.
Exactement. Et la technique, notamment au service des édifices de spectacle, est à elle seule un spectacle dans le spectacle. Je vais vous expliquer juste, je vais vous donner juste un seul exemple. Par exemple, si on revient à l'exemple des Vélomes, j'ai fait ma thèse sur le théâtre de Pompée, qui est le plus grand théâtre de Rome, 20 000 spectateurs. Et avec le collègue physicien dont je vous parlais tout à l'heure, on a calculé que les toiles destinées à faire de l'ombre sur les spectateurs pouvaient être dépliées en moins d'une minute. Imaginez un petit peu ce que ça donne pour un Romain qui vient s'installer dans le théâtre, il fait chaud, ça placé en plein soleil, et tout d'un coup, en une minute, on voit ces toiles bienfaitrices apporter de l'ombre sur les spectateurs. En plus, les toiles sont vraisemblablement colorées, en rouge, en bleu, en jaune, ça va colorer les vêtements des spectateurs. Et je pense qu'on a un spectacle avant le spectacle amené par cette technologie. Et si je reprends l'exemple de Néron, que l'on connaît tous comme l'empereur mythomane et fou, c'est surtout, c'est en partie vrai, mais c'est aussi l'image qui est véhiculée
Par
par
les successeurs,
la propagande, par les successeurs. Mais en fait, Néron était un féru de technologie, et une grande archéologue qui s'appelle Françoise Villedieu a retrouvé il y a quelques années la salle à manger
oui.
tournante de Néron, qui est quand même un objet tout à fait extraordinaire. Néron avait fait concevoir par deux architectes une salle à manger tournante qui permettait à ses invités de bénéficier d'un 360 degrés pendant l'heure du dîner au-dessus de la ville de Rome. J'ai envie de dire que le plus beau restaurant
Oui.
panoramique de New York n'a rien à envier à la salle à manger tournante de Néron. Donc la technologie est vraiment indissociable de la compréhension de cet empire romain.
Oui, alors là, par exemple, vous parliez de cette salle à manger. Justement, vous lui aviez dédié une conférence passionnante, et à Vitruve aussi, avec les volières. Hein, et quand on, grâce à vous, on a pu s'imaginer comment c'était de pouvoir dîner au contact des oiseaux d'un côté, des poissons de l'autre. Enfin, c'est fascinant.
Alors, nous, ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire, c'est vraiment de proposer des restitutions qui soient créées dans un milieu universitaire, c'est-à-dire des restitutions qui ne contredisent aucune de ce qu'on appelle les sources primaires, les textes, l'archéologie, l'iconographie. Mais il faut que le chercheur garde toute l'humilité nécessaire à son travail, parce que ce que l'on propose, c'est vraiment une hypothèse valable à l'instant où on la présente et qui est vouée à évoluer avec le temps. Et cette hypothèse-là, ben, va être la base de discussion avec d'autres chercheurs. Et puis ce que l'on essaye de faire, pour faire un lien avec le début de notre entretien, c'est aussi à raviver cette passion de l'Antiquité, à partager avec le plus grand nombre ce que devait être la vie dans l'Empire à Rome à cette époque-là, parce que on manque cruellement de jeunes, d'étudiants qui maîtrisent les textes anciens, qui maîtrisent les textes grecs, alors que nous parlons d'une recherche tout à fait vivante pour laquelle il y a encore beaucoup de travail à réaliser.
Alors, j'ai l'espoir aussi que l'entretien que nous avons aujourd'hui, justement, parlera aux jeunes de ce qu'ils peuvent apporter avec leurs connaissances techniques et scientifiques à cette connaissance et à ce partage de l'Antiquité.
Tout à fait. En tout cas, quand on réalise les séances dont vous parliez tout à l'heure, les Nocturnes du Plan de Rome, ce sont au départ des séminaires de recherche, donc qui ont lieu dans le cadre de séminaires d'une école doctorale. Mais à ces séminaires, on a environ 200 personnes qui sont présentes.
Oui.
Et ça va des petits-enfants à partir de 7 ans jusqu'aux professeurs d'histoire. Et je considère que si un enfant de 7-8 ans ne peut pas suivre une de nos conférences, c'est qu'on ne l'a pas expliqué dans des termes suffisamment accessibles. Et justement, ces enfants posent parfois des questions qui sont extrêmement pertinentes et qui nous amènent en tant que chercheurs à réfléchir à ce que l'on fait, à réfléchir à ce que l'on reconstitue. Et j'ai un exemple qui me vient en tête. La première fois que j'ai présenté l'hypothèse de restitution du théâtre de Pompée, c'était il y a une de ces séquences-là. Et une petite fille a levé la main, donc je lui ai tout de suite donné la parole et elle m'a dit, mais Madame, comment on fait quand on a envie d'aller aux toilettes et qu'il y a 20 000 personnes dans le théâtre?
Très bonne question.
Eh bien oui, la question est excellente. Sauf que voilà, j'avais présenté le volet architectural, j'avais présenté les circulations qui étaient pompées. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore restitué dans le laboratoire les grandes latrines publiques qui se trouvent à proximité du théâtre. Et c'est quelque chose auquel on s'est attelé dans les semaines qui ont suivi et qui, à mon avis, est tout aussi intéressant que l'aspect classique. Et c'est grâce à cette petite fille que j'ai décidé de restituer rapidement ses toilettes, comme quoi il n'y a jamais de mauvaise question.
Exactement. Alors, on va bien sûr revenir dans le détail des termes, pardon, du stade de Domitien, mais pour donner une idée aux auditeurs qui pourraient avoir tout de suite l'envie d'aller voir sur le net, effectivement, les dernières conférences, il y a eu en février Auguste, il y a eu en mars Métrologie et monde d'hiver en Mésopotamie, et en avril les termes de Caracalla. Et pour revenir à ce que vous disiez tout de suite, c'est effectivement pour le stade de Domitien, vous avez consacré en 2015, je crois, une première nocturne de Rome à cet édifice, et puis 10 ans après, vous avez jugé qu'il fallait recommencer.
Tout à fait, parce que la science évolue. Et autant chacun comprend que la science évolue dans des disciplines. Voilà, qui sont directement au fait de l'actualité. On comprend bien que on peut se trouver un nouveau médicament, trouver une nouvelle planète, mais la science évolue aussi continuellement sur l'Antiquité. Et c'est pour ça que cette recherche est toujours aussi vivante. J'ai envie de dire qu'il ne se passe pas une année à Rome sans qu'il n'y ait ou une nouvelle découverte, ou une nouvelle réinterprétation des sources qui nous oblige à revoir ce que l'on avait précédemment écrit. La recherche sur l'Antiquité, c'est un livre ouvert qui ne se refermera jamais. Rome, par exemple, tout de suite, la ville est en train de se doter d'une nouvelle ligne de métro.
Oui.
Et ben, à chaque fois que la ligne avance, on trouve de nouvelles choses. Et c'est tout un pan de l'histoire inconnue qui s'ouvre devant nous et qui mérite d'être interprété.
Alors, nous avons bien sûr encore beaucoup de choses à dire, mais il est temps de faire une petite pause musicale et je suis allée puiser dans le festival d'Ostia Antica, un festival qui mêle musique, danse, théâtre, stand-up. Et voilà un petit morceau de musique qui va nous projeter dans ce carrefour entre l'histoire, les histoires, la reconstitution, la restitution. Alors je vous dis à tout de suite, Sophie.
À tout de suite.
Thank you.
C'est la deuxième partie de l'émission Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, bien entendu, consacrée à la Rome virtuelle de Sophie Madeleine, avec qui nous échangeons pour le plus grand bonheur, j'espère, des auditeurs, en montrant que tout est compatible, rien n'est à cloisonner et que l'histoire fait bon ménage avec la littérature, les arts, l'archéologie et les sciences. Alors, à quel moment est né ce projet de cette restitution fabuleuse et quand est-ce que ça a commencé? Comment s'est créé donc ce qu'on appelle le CIREV? Il faut quand même décoder. Il faut dire ce que c'est que le CIREV. C'est le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l'Université de Caen. C'est bien ça?
C'est exactement ça. En fait, c'est une très belle histoire parce que cette aventure a commencé en 1900. En 1900, on a un architecte qui s'appelle Paul Bigot qui remporte le Grand Prix de Rome. Alors, c'est un Normand, mais vous allez voir que c'est assez anecdotique dans l'histoire. C'est un Normand qui remporte le Grand Prix de Rome et qui va aller un an à la Villa Médicis pour travailler sur le Grand Cirque. À cette époque-là, les Grands Prix de Rome devaient réaliser deux choses à la Villa Médicis une fois qu'ils avaient choisi l'édifice sur lequel ils allaient travailler. Ils devaient restituer une aquarelle représentant le monument à l'époque de sa splendeur architecturale, à l'époque des Romains, et en même temps proposer un relevé des ruines de ce bâtiment. Et il se trouve que Paul Bigot a choisi de travailler sur le Grand Cirque parce qu'à son époque, le Grand Cirque n'était pas visible. L'usine à gaz de Rome était construite à cette époque-là. Donc, il a travaillé sur ce monument, mais il a fait preuve d'une grande originalité parce que dès le début de ses travaux, il a été voir la direction de la Villa Médicis en leur disant « Écoutez, le Grand Cirque, c'est un monument extraordinaire ». Le Grand Cirque, c'est deux fois la Tour Eiffel couchée sur la piste. C'est entre 150 000 et 250 000 spectateurs. Et si jamais je restitue ce Grand Cirque sous forme d'une aquarelle, jamais on ne percevra la taille exceptionnelle du bâtiment. Et du coup, il a proposé d'introduire la troisième dimension. Alors, ce n'était pas une troisième dimension informatique, c'était une troisième dimension physique. Il a proposé de créer une maquette en plâtre du Grand Cirque. Et puis cette maquette en plâtre a été présentée en 1911 lors d'une grande exposition qui a eu lieu à Rome au terme de Dioclétien. Elle a connu un grand succès. Et puis il est retourné voir la direction de la Villa Médicis. Il leur a dit bah, « Écoutez, le Grand Cirque, c'est formidable, mais il s'insère dans un contexte urbain. Ça serait bien de faire les deux collines de chaque côté. » Donc il a restitué d'abord l'Aventin, le Palatin, et puis après il s'est dit « Mais il faudrait faire les sept collines. » Et c'est comme ça que Paul Bigot a créé la première maquette intégrale de Rome en plâtre, 70 mètres carrés, qui est exceptionnelle pour comprendre ce qu'était cette ville. Et par tout un concours de circonstances, cette maquette de Bigot est revenue à Caen, à l'Université de Caen-Normandie. Elle a été mise en valeur à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines pour en faire un symbole des SHS. Et dans mon laboratoire de recherche, on s'est dit, mais quelle chance incroyable de passer devant cette maquette tous les matins. Un symbole, c'est bien, mais ça serait bien d'aller plus loin, ça serait bien d'en faire un symbole, d'en faire un objet de recherche. Et c'est là, en 1994, qu'on a décidé de se lancer dans un projet un petit peu fou. On a décidé de restituer Rome, la totalité de la ville de Rome, à la même époque que Paul Bigot, au 4e siècle après Jésus-Christ, mais en reprenant toute la recherche à zéro, et en n'utilisant plus cette fois du plâtre, mais la réalité virtuelle.
Alors, c'était génial et ça a mobilisé, donc, je crois, 11 équipes hein, dans des disciplines tout à fait variées pour établir cette réalité virtuelle en 3D.
Bah, on y travaille depuis 30 ans. C'est vraiment toute une équipe de recherche qui travaille dessus. Et ce qu'il y a eu un petit peu de fabuleux dans l'histoire, parce que c'est comme ça que fonctionnent les choses, c'est qu'au départ, on a utilisé la réalité virtuelle vraiment pour travailler sur Rome. Et puis, on s'est rendu compte que cette technologie, à un certain moment, permettait d'aller plus loin que l'illustration. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer une image pour représenter un savoir existant, mais la réalité virtuelle va pouvoir être utilisée pour tester les hypothèses. Pour, par exemple, se rendre compte qu'on ne voit pas le temple de Jupiter Capitolin quand on est sur le forum. C'est-à-dire qu'on passe de l'étape de représentation à l'étape d'expérimentation. Et les ingénieurs que l'on avait formés autour de la restitution virtuelle de Rome aujourd'hui sont mutualisés au Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle qui, comme vous le dites, compte 11 équipes de recherche en médecine, en géographie. Aujourd'hui, on utilise ces technologies-là dans notre centre pour diagnostiquer de façon précoce la maladie d'Alzheimer. On l'utilise aussi pour simuler ce que seront les crues sur les côtes de Normandie quand le niveau des océans aura augmenté d'un mètre. Et toute cette belle aventure est partie de la restitution de Rome.
C'est magnifique et j'invite tous les auditeurs à venir dimanche 21 juin vous écouter à nouveau ainsi que Philippe Fleury. Je pense qu'on va passer un moment inoubliable. J'en attends beaucoup. À bientôt.
En tout cas, je serai très heureuse d'être avec vous.
À tout bientôt. Au revoir, Sophie.
Au revoir.